Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com. En kiosque avec un dossier consacré au Sahel, après le départ de la France, l'arrivée de la Russie, l'arrivée de la Chine, les transitions démocratiques également, et puis comme dans chaque numéro, les différents chroniqueurs de Conflit, une rubrique consacrée aux grandes batailles, une autre consacrée à la grande stratégie. Et puis tous les jours, sur le site internet de Conflit, des articles, certains réservés aux abonnés, certains en accès libre. Vous le savez, Conflit ne vit que par ses lecteurs, donc en achetant Conflit, en kiosque, ou bien en vous abonnant à Conflit, ou en offrant des abonnements, vous permettez à la revue de se développer. Cela fait 10 ans maintenant que Conflit existe. Nous fêtons en ce mois de mars le 10e anniversaire de la création de Conflit. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et parlez de Conflit autour de vous si vous aimez la revue afin que Conflit puisse continuer à se développer. Cette semaine, nous allons parler du Maroc. Le Maroc est un pays avec lequel la France a des très anciens liens historiques, culturels, économiques. Nous allons évoquer le Maroc dans ses diversités, dans ses différentes facettes, notamment pour présenter les dimensions contemporaines du Maroc, puisque c'est un pays qui évolue beaucoup avec de nombreux changements et un pays important dans l'axe africain, Maghreb, mais également aussi par rapport au Sahel, justement, au Sahel, zone saharienne, et puis au golfe de Guinée. Et pour parler du Maroc, mon invité cette semaine est Ali Moutaïb. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste Noé. Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup d'être venu. Donc, vous êtes conseiller en intelligence stratégique, directeur associé du cabinet Hyperborée Resorts, et puis également directeur de l'école de guerre économique de Rabat, puisque on connaît l'école de guerre économique qui a son pôle à Paris, et vous avez contribué à ouvrir le pôle de Rabat pour former des Marocains et des cadres marocains au sujet important de l'intelligence économique et de la guerre économique. Alors, les relations entre la France et le Maroc ont été un petit peu perturbées ces dernières années. On voit qu'il y a eu un effort récent. On enregistre cette émission début mars, au cours des dernières semaines, pour un réchauffement des relations, notamment entre le Quai d'Orsay et le Maroc, ce qui est une excellente chose. On ne peut que s'en réjouir. Et je vais commencer cette émission par les atouts économiques du Maroc, et notamment le port de Tangemed, qui est un port extrêmement important, donc près de Gibraltar, donc trafic à la fois pour la Méditerranée et également pour la zone atlantique, puisque le Maroc a une plus grande surface atlantique que méditerranéenne, mais Tangemed joue ce pôle entre les deux. C'est à la fois la principale porte d'accès pour le Maroc et aussi un des principaux ports d'Afrique.
Tout à fait. Alors oui, effectivement, pour le port de Tangemed, d'abord, c'est un projet qui est emblématique. Il est emblématique, c'est un projet qui a été lancé au début du règne du roi Mohamed VI et qui voulait que ça soit un projet emblématique pour l'accélération, notamment du développement du Maroc, l'accélération industrielle, et donc qui a été lancé avec de grandes ambitions, avec beaucoup de défis au départ, beaucoup de challenges, notamment par rapport en termes de compétitivité par rapport aux autres ports. Je pense aux ports espagnols, notamment le port d'Algésiras ou le port de Valence. Aujourd'hui, c'est une réussite très importante. Ce n'est pas seulement un pôle logistique en termes de port, c'est vrai, il est à cheval sur la Méditerranée et l'Atlantique, et donc se situe à un carrefour stratégique. Ça, c'est un de ses principaux atouts. Donc, c'est un pôle logistique, mais en même temps un pôle industriel. Ça se veut être un des champs, on va dire, ou des symboles de l'accélération industrielle que souhaite opérer le Maroc, qui est en train de continuer dans ce sens, en accueillant justement non seulement un volume très important du trafic maritime mondial, je crois qu'on est à peu près à 9 millions de PV, donc de volume de conteneurs au niveau du port, mais aussi en accueillant des pôles industriels très importants, notamment sur des secteurs très spécifiques comme l'automobile et le câblage automobile de manière générale, avec l'usine Renault qui est symbolique, ou un peu plus bas, l'usine Peugeot aussi, mais aussi d'autres constructeurs mondiaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Maroc est passé, même en termes d'exportation, en train d'opérer un virage, parce que depuis plusieurs années, le phosphate, qui est la principale ressource naturelle du Maroc, était la première, voilà, le premier produit d'export pour le royaume. Aujourd'hui, c'est l'automobile. C'est l'automobile qui est le premier produit d'export du royaume. Et Maroc souhaite, en plus justement de ce secteur qui est devenu clé, se diversifier sur l'aspect industriel. Et le port de Tanger Med est le symbole et plutôt la réussite, en fait, la réussite en fait de ce lancement, de ce champ d'infrastructure qui a été lancé par le roi Mohamed VI ces 25 dernières années.
Parce qu'à Tanger Med, il y a donc les zones portuaires et également des zones franches où les usines s'installent, bénéficiant de conditions fiscales intéressantes. Et donc, ça a été notamment les industries automobiles françaises, comme vous l'avez cité, Peugeot et Renault, qui s'installent, avec aussi l'enjeu de la formation de la main-d'œuvre, puisque s'il y a l'usine, il y a des ouvriers dans les usines. Donc, il a aussi fallu former les main-d'œuvre locales pour travailler dans ces usines.
Bien sûr, tout à fait. Il a fallu former les main-d'œuvre locales, ça a créé beaucoup d'emplois et il y a une expertise qui s'est développée tout au long de ces années. Il y a effectivement des zones franches, vous l'avez cité, ce qu'on appelle ces free zones, qui, effectivement, en offrant des avantages intéressants pour ces usines, notamment au niveau fiscal, mais aussi en termes de logistique et par rapport au positionnement aussi de Tanger, donc des coûts de frais, des coûts de transport, mais aussi d'énergie, offre des perspectives intéressantes pour ses investisseurs et donc capte encore plus l'investissement étranger. Et donc, pour revenir effectivement à l'expertise, il y a eu le développement de cette expertise dans le domaine de l'automobile par la formation des ouvriers, des ingénieurs. Et aujourd'hui, je pense qu'en termes de perspective, le Royaume souhaite capitaliser sur cette formation, cette expertise pour se diversifier au niveau industriel, mais toujours dans d'autres secteurs qui existent au Royaume, les secteurs des services, parce que dans ces zones franches aussi, il y a des entreprises qui investissent, il y a des dans le domaine en fait des nouvelles technologies, des énergies renouvelables, mais aussi de l'informatique, des nouvelles technologies de manière générale.
Alors, l'actualité récente en France a aussi été marquée par l'ouverture d'un pôle de l'université Mohamed VI, ouverture à Paris. Donc ça, c'est aussi un événement important. C'est la première fois qu'une université du continent africain ouvre un campus en France. Donc il y aura à la fois des formations intelligence artificielle, formations scientifiques. Là, il y a beaucoup de projets et d'ambitions aussi pour former des étudiants marocains et aussi étudiants français.
Tout à fait. Alors oui, l'université Mohamed VI est une université qui a beaucoup de moyens, qui développe vraiment des perspectives intéressantes, des laboratoires de recherche très intéressants dans différents domaines, dans le domaine de la transformation agricole, de ce qu'on appelle l'agritech, vu que c'est un des premiers pôles qui a été lancé par l'université Mohamed VI, qui est piloté par l'Office chérifien des phosphates, enfin qui appartient à l'OCP. Et puis, mais encore aussi dans l'investissement social, notamment en créant des écoles d'ingénierie informatique, ou plutôt des codes un peu partout au Royaume, l'école 1337, en partenariat avec l'école 42 à Paris, ou encore le lycée d'excellence l'IDEX, qui est devenu une référence aujourd'hui dans le monde des classes préparatoires francophones, vu que c'est un des lycées qui est l'un des lycées les mieux classés aujourd'hui dans les prépas, vu qu'il envoie chaque année un nombre très important des étudiants qui viennent de différents milieux, notamment de différents milieux sociaux, qui sont financés et puis encouragés et formés par ce lycée d'excellence, l'IDEX financé par l'OCP pour envoyer plusieurs étudiants. Et le plus symbolique, c'est l'envoi très important d'étudiants chaque année en intégration de l'école polytechnique. Donc il y a un investissement très important au niveau social et dans l'éducation. L'université Mohamed VI, effectivement, en est un symbole. Et donc, cet investissement va aussi dans les nouvelles technologies et les perspectives futures et les défis auxquels va faire face le Maroc aujourd'hui, le stress hydrique, la transformation agricole, mais aussi les sujets liés à l'intelligence artificielle, à la formation des jeunes. Et aujourd'hui, je pense, avec cette ouverture aussi, comme vous l'avez bien souligné, de la première université africaine en Europe, donc sur le campus parisien. Je pense que l'université va appuyer de manière générale ce rôle et positionnement du Maroc de lien entre le Nord et le Sud. Voilà. De par des relations historiques qui existent avec des pays européens, la France en particulier, voilà, depuis plusieurs années, mais aussi par la profondeur africaine et la volonté de coopération sud-sud du royaume. Donc, je pense qu'on s'inscrit dans cette logique-là, et puis on s'inscrit dans une logique voilà, de formation scientifique de haut niveau.
On va y revenir parce qu'il y a effectivement des coopérations très intéressantes entre le Maroc et d'autres pays du continent africain, notamment le Nigeria. Avant ça, je voulais juste évoquer l'OCP pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers. Donc, Office chérifien des phosphates. De quoi s'agit-il exactement? Enfin, c'est une des très grandes entreprises du Maroc, mais quel est son rôle ou quelles sont ses activités?
L'Office chérifien des phosphates, la plus grande entreprise publique du Maroc, qui s'occupe, qui est pour activité l'extraction, la production et la vente de phosphates à travers le monde. Donc depuis plusieurs années, phosphate qui est la principale ressource naturelle, donc qui est une ressource minière très importante et indispensable, notamment pour la production d'engrais à travers le monde. Donc c'est aujourd'hui un minerai qui est encore plus stratégique dans le monde par rapport à l'augmentation démographique et par rapport à des besoins de souveraineté alimentaire pour plusieurs pays. Le Maroc détient plus de 70% des réserves mondiales de phosphate, un des premiers exportateurs mondiaux de phosphate. L'OCP est l'entreprise qui s'occupe effectivement d'exploiter cette ressource très précieuse. Néanmoins, depuis plusieurs années, l'OCP, au niveau stratégique, a opéré un virage très intéressant en ne s'occupant plus juste d'extraire le phosphate à l'état brut pour l'exporter, mais de le transformer directement. C'est-à-dire aujourd'hui, l'OCP, en intégrant d'autres éléments, d'autres ressources naturelles, produit aujourd'hui de l'engrais et exporte de l'engrais, ce qui fait du Maroc aujourd'hui de plus en plus important, un des pôles. Ce sera, je pense, dans les futures années, un des pôles les plus importants au niveau mondial en termes de souveraineté alimentaire et donc en termes de production, fabrication de fertilisants, d'engrais, vu que le phosphate et l'investissement en recherche et développement va faire de cette matière une matière stratégique importante pour la production agricole et pour la souveraineté alimentaire mondiale.
Où est-ce qu'on trouve les mines de phosphate au Maroc? Enfin, où elles sont situées?
Elles sont situées aux alentours principalement des plus grandes mines près de la ville de Khouribga, dans le centre du Maroc, de Youssoufia, et voilà, au niveau d'autres pôles. Ça, c'est les principales régions d'extraction. Il y a une petite mine au niveau de la région de Boukhara, dans le Sahara marocain. Mais néanmoins, même si les contradicteurs, on va dire, les adversaires de l'intégrité territoriale marocaine disent que le Maroc exploite des ressources naturelles au Sahara qui lui donnent, on va créer de la richesse par rapport à la question du phosphate, cette mine au Sahara représente que 2% de la production. Donc c'est entre guillemets un faux débat. Le plus gros des extractions effectivement de phosphate se situe au niveau de près de la ville de Khouribga, au centre du Maroc.
Alors, il y a un autre élément qui est un peu le symbole aussi des transformations du Maroc, c'est les lignes de TGV qui relient les principales villes, notamment Tanger, Casablanca, Rabat. Ça a été aussi l'objet de travaux importants et aujourd'hui, c'est inauguré il y a 2-3 ans, c'est ça, cette ligne, enfin ces
En
lignes, parce qu'il y en a
2018.
plusieurs, qui permet de relier les grandes villes entre elles.
Oui, alors c'est un projet aussi très important, emblématique. C'est un projet qui a été critiqué au départ par une frange. J'ai dit le Maroc n'a peut-être pas besoin de TGV à l'heure actuelle et devrait se focaliser sur d'autres projets, notamment sociaux. Je pense qu'en France aussi, il y a plusieurs années, l'opinion publique a eu ce genre de débat, de critique. Il s'avère aujourd'hui que c'est une réussite totale pour l'ONCF, l'Office national des chemins de fer marocains. Il relie aujourd'hui Tanger à Rabat, à Tanger Kenitra, à Rabat, à Casablanca. Tanger Casablanca en 2h10 et un peu moins d'1h20 entre Rabat et Tanger. Ce qui a fluidifié, on va dire, le trafic, accéléré en fait les échanges entre ces pôles économiques, on va dire, de la façade atlantique du Maroc de manière très très importante. Le flux aujourd'hui, l'ONCF a publié ces chiffres qui sont très rentables par rapport à cette ligne-là. C'est très bien administré et ça crée en tout cas sa facilité les échanges de transport de passagers, les échanges économiques internes au Maroc de manière très très importante. Donc c'est un projet finalement qui a beaucoup de succès et qui est maintenant amené à s'étendre de manière importante vu qu'il y a une échéance très importante pour le Maroc et symbolique durant les prochaines années. L'organisation, c'est des échéances sportives, mais qui ont des valeurs économiques, sportives et d'influence très importantes. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine en Maroc, mais surtout la Coupe du Monde de football que le Maroc va organiser avec l'Espagne et le Portugal en 2030. Et dans cette optique-là, les schémas directs ont été validés, les conventions signées, les travaux, les études ont commencé. Le Maroc devrait avoir une ligne, en tout cas opérationnelle, Tanger-Marrakech d'ici 2029, donc juste avant le lancement de la Coupe du Monde, et avec une extension jusqu'à Agadir aussi. Voilà. Donc avec une accélération sur les projets ferroviaires, donc les projets de lignes à grande vitesse, de manière importante.
Oui, d'autant que ce sont les échanges qui permettent le développement économique. Et si on ne relie pas les villes entre elles, et donc si les gens ne peuvent pas travailler et y aller dans les grandes capitales économiques du pays, le pays ne progresse pas. Donc opposer infrastructures et puis projets sociaux, c'est un non-sens, puisque c'est par le développement économique qu'on sort les populations de la pauvreté, de la misère, et qu'on leur permet d'insérer dans le pays.
Bien sûr, tout à fait. Les projets d'infrastructure sont essentiels. Il y a d'abord durant ces 25 dernières années, des investissements très importants dans les routes, déjà dans les routes et autoroutes qui sont d'excellente qualité aujourd'hui, qui fluidifient les échanges de biens, de services et de personnes au sein du Maroc, mais aussi les projets d'infrastructure. Ça booste, entre guillemets, les échanges commerciaux, le développement des affaires, mais aussi le développement touristique. Demain, on va pouvoir faire Casablanca, Tanger en moins d'une heure, ce qui va en fait amplifier le volume d'échanges et permettre le développement économique de différentes régions. Et ça s'inscrit dans une vision qui est très importante pour le royaume et pour le roi Mohamed VI, parce qu'il a insisté sur ce point depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années, c'est la régionalisation avancée. Aujourd'hui, c'est d'avoir des avancées politiques au niveau des présidences des régions pour développer différents pôles, mais en fait, le développement des pôles, on ne peut plus avoir cette vision centralisée autour d'un pôle économique, par exemple, comme Casablanca, qui, la région de Casablanca, aujourd'hui en tout cas, concentre 50% du PIB du royaume. Il s'agit de permettre une décentralisation, un développement des différentes régions, comme ce qui s'opère aujourd'hui à Tanger. Tanger est devenu un pôle industriel et touristique et va être amené à se développer encore plus. L'idée est de permettre aux autres régions, notamment aux autres territoires, d'avoir une accélération à ce niveau-là. Et il faut bien commencer, comme vous l'avez dit, par les infrastructures, les projets d'infrastructures. Ça a été fait depuis plusieurs années au niveau de l'accès le Maroc est 100% électrifié, Internet, les routes. Aujourd'hui, c'est justement le développement des transports et des lignes à grande vitesse qui vont permettre cela.
Alors, dans les infrastructures, il y a aussi la question des hydrocarbures. Il y a 2 ans, maintenant 3 ans, il y a eu des frictions avec le voisin algérien, puisque il y a un gazoduc qui amenait le gaz de l'Algérie jusqu'au Maroc et qui d'ailleurs après continuait vers l'Espagne. L'Algérie menaçait de couper le gazoduc. Et donc aujourd'hui, il y a des partenariats qui sont trouvés avec d'autres pays, notamment le Nigeria, grand pays gazier aussi d'Afrique et du Golfe de Guinée, pour avoir un approvisionnement autre et donc aussi gagner en indépendance.
Tout à fait. Alors la question énergétique est très importante pour le Maroc. Premier point.
Parce qu'il n'y a pas de gisement, il n'y a pas de gaz ni de pétrole au
Il n'y a
Maroc.
pas de gaz ni de pétrole. Le Maroc et la facture en fait des importations du Maroc est entre guillemets très salée due en fait à l'importation d'hydrocarbures. Et le Maroc a besoin d'hydrocarbures et notamment de gaz pour pouvoir avoir sa fameuse accélération industrielle qu'il souhaite. Voilà, le Maroc est en train d'opérer une bonne politique pour attirer les investissements directs étrangers, notamment industriels, mais le gaz est indispensable pour opérer cette transition-là. Hélas, il y a fait effectivement, vu les tensions qui existent aujourd'hui avec le voisin algérien sur plusieurs dossiers, l'Algérie a décidé de couper le gaz au Maroc, en fait de couper le transit du gaz qui transitait par le gazoduc Maghreb-Europe, donc il passait d'Algérie, passait par le Maroc jusqu'en Espagne. Elle décidait de ne pas le renouveler le contrat, voilà, pour différentes raisons, sachant que ça allait amputer aussi l'Algérie
Oui, du
de
revenu.
revenus. Le Maroc a tout simplement réussi à reverser en fait le flux gazier avec l'Espagne. L'Espagne importe son gaz à différentes sources d'import, d'Algérie entre autres, mais aussi en GNL des États-Unis, du Qatar ou encore d'autres pays. Donc le Maroc aujourd'hui importe son gaz d'Espagne. C'est juste que l'ancien gazoduc d'où transitait, on va dire, Algérie, Maroc, Espagne. Aujourd'hui, le Maroc a réussi à renverser le flux pour avoir du gaz d'Espagne vers le Maroc en partie. Mais néanmoins, vous l'avez cité, le projet emblématique, emblématique, il sera peut-être, voilà, emblématique lors de ces prochaines années, en tout cas un projet important pour le Royaume, c'est le fameux gazoduc Atlantique, donc offshore entre le Nigeria et le Maroc. Le Nigeria a les plus grandes réserves de gaz naturel d'Afrique. Il y avait pendant plusieurs années un projet, depuis plus de 40 ans, il y a eu des discussions d'un projet de gazoduc transsaharien entre le Nigeria et l'Algérie, qui transiterait par des pays comme le Niger ou autres pour transporter le gaz. Ce n'est plus vraiment d'actualité parce que ça ne s'est pas fait. Et puis aujourd'hui, la situation au Sahel, les groupes terroristes qui pullulent, l'ensemble des désertiques géographiques font que ce projet est devenu de plus en plus
C'est compliqué.
compliqué, voilà, à mettre en
Au
œuvre.
Niger, au
Le
Mali, c'est.
Maroc a lancé donc un projet ambitieux où en fait il y a un leadership du Maroc et du Nigeria dessus pour dire pourquoi ne pas lancer justement ce gazoduc au niveau de offshore, au niveau de l'Atlantique. Alors au départ, il y avait quelques voix sceptiques effectivement qui disaient que c'est un projet compliqué, coûteux, parce que c'est plus coûteux d'effectuer, de construire des gazoducs un peu en offshore, mais qui devient 8 ans après l'annonce et la signature qui se concrétise jour après jour, avec les premiers travaux et signatures qui ont commencé. Il faut dire qu'il s'adosse aussi à des infrastructures aussi existantes entre le Nigeria et quelques pays voisins. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer d'accélérer pour que le projet se concrétise jusqu'au Maroc pour réceptionner ce gaz-là. Le projet est d'autant plus intéressant qu'il y a d'autres pays qui risquent de devenir producteurs, qui vont devenir des producteurs de gaz, court terme, comme le Sénégal ou la Mauritanie. Donc, c'est un projet qui est très sérieux, qui avance bien et qui pourrait effectivement rebattre certaines cartes, ou en tout cas ramener une offre supplémentaire en termes de consommation de gaz. Pour le Maroc, il s'agit d'assurer son approvisionnement, notamment qui est aujourd'hui indispensable pour son accélération industrielle, mais ça peut aussi rebattre les cartes pour l'Union européenne, aujourd'hui qui a un problème d'approvisionnement en gaz dû à la situation russo-ukrainienne, mais avec toujours des importations chères et insuffisantes. Je pense au GNL américain, Qatari, ou aujourd'hui juste avec le gaz norvégien, donc, ou le gaz algérien, mais qui aujourd'hui aussi. Ou aussi, je pense au gazoduc de l'Azerbaïdjan, mais en tout cas, qui pourrait permettre d'avoir aussi des cartes supplémentaires à l'export. Mais la vision, je pense aussi, du Maroc aujourd'hui, c'est déjà d'assurer son approvisionnement énergétique par une source fiable et importante, et dans un partenariat vraiment très réaliste entre les deux pays.
C'est-à-dire que là, le gazoduc passe par l'océan Atlantique, donc il longe les côtes africaines.
Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est le projet, voilà, qui est en construction. Il y a déjà les infrastructures existantes dans le golfe de Guinée entre le Nigeria et ses pays voisins. L'idée de continuer d'adosser justement le développement du projet tout au long des côtes, oui, vous faites bien de le souligner, des côtes de la côte atlantique des pays africains pour approvisionner chaque pays. Voilà. En termes de gaz, qui permettra en fait à l'ensemble des pays de la région de profiter de cette manne gazière et de permettre leur développement aussi à ce niveau-là.
Oui, donc c'est un immense projet.
C'est un projet pharaonique, et effectivement, avec beaucoup de défis qui ont été définis au départ, des défis financiers, des défis d'infrastructure, mais qui entrera 8 ans après. D'avancer à un rythme très réaliste et puis avec une accélération à ce niveau-là.
Alors, si on reste sur les grands enjeux pour le Maroc, on a évoqué l'énergie et les hydrocarbures. Il y a aussi la question de l'alimentation. Alors on l'a vu notamment avec la guerre en Ukraine, la question des céréales et de l'alimentation en céréales. Qu'en est-il de la production alimentaire au Maroc? Quel est l'élément de base? Tu peux des céréales aussi, mais est-ce qu'il y a des régions là aussi où on produit cette alimentation ou est-ce que vous devez aussi importer une partie de cette matière?
Alors, le Maroc a opéré un changement, virage, il y a une quinzaine d'années sur sa production alimentaire avec le lancement du plan Maroc Vert, qui a eu des avantages et des inconvénients. Principalement, on va en parler. Le premier, c'est que le Maroc a produit beaucoup moins ou très peu de céréales aujourd'hui, donc il importe beaucoup, ce qui peut créer une dépendance à ce niveau-là. En tout cas, par rapport à cela, pour investir par contre sur la production maraîchère de fruits et légumes de manière très importante, qui a donné des résultats aujourd'hui. Le Maroc est le deuxième exportateur, on va dire, de tomates au sein de l'Union européenne, après les Pays-Bas, mais devant l'Espagne. Exporte différents types de produits agricoles. Ça a permis le développement et l'explosion de l'export des produits agroalimentaires au Maroc. Ça permet d'avoir une certaine sécurité alimentaire au niveau national par rapport à l'accès à ces produits-là à grande échelle. Néanmoins, c'est dépendant de plusieurs facteurs. Il y a toujours le facteur de la pluie qui joue. Or, le Maroc connaît depuis plusieurs années des vagues de sécheresse très très importantes. Cette année aussi, on est une qui est très symbolique. Le Maroc fait face à un stress hydrique très important, c'est-à-dire que c'est fruits et légumes exportés, notamment je pense à l'export de pastèques ou avocats
Très
qui sont
gourmand en eau, ça.
critiqués. Voilà, c'est très gourmand en eau et qui sont très critiqués aujourd'hui vu que le Maroc connaît un stress hydrique important. Mais c'est aussi des problématiques que fait l'Espagne par exemple. Donc ça a des avantages, mais ça a beaucoup d'inconvénients à ce niveau-là. Et voilà, par rapport à cette politique-là, donc le Maroc est en train de revoir, a mis en place un nouveau plan pour repenser de manière un peu plus équilibrée cette production agricole et surtout faire face au défi de l'eau. Au défi de l'eau qui est aujourd'hui un des sujets stratégiques et même géopolitiques majeurs pour le Maroc, qui veut, voilà, plus récemment aussi, investir dans l'économie bleue, donc par rapport à son économie maritime, mais aussi trouver des solutions à ce stress hydrique par plusieurs projets. Là, récemment, il y a des grands chantiers de stations de dessalement qui ont été lancés pour essayer d'équilibrer justement cet apport en eau et trouver une solution et l'équilibre entre la production agricole, mais aussi l'accès en eau pour les citoyens. Donc, pour résumer, la gestion, plutôt l'accès alimentaire est parfaitement équilibré. Le principal défi pour ces prochaines années, ça sera la gestion de l'eau.
Et sur l'eau, il y a une thématique qu'on a aussi en France, c'est entre donc usage agricole, usage locaux et puis population touristique.
Oui.
Parce qu'évidemment, les touristes consomment aussi de l'eau pour les piscines et autres. Donc là aussi, il y a un partage de la ressource, un usage de la ressource qui peut être tendu.
Bien sûr, ça se fait voilà, au niveau de la gestion territoriale, hein, là il y a des missives, des organisations faites par les walis et les gouverneurs en fait des différentes régions pour la rationalisation ou une meilleure gestion de l'eau. Et ça implique en fait les habitations, les établissements publics, mais aussi les établissements touristiques, pour qu'il y ait une continuité et une utilisation en fait rationnelle de ces denrées, en attendant justement d'accélérer sur les projets un peu comme les stations de dessalement qui permettront au Maroc un peu de souffler, parce que la problématique, c'est qui concerne en fait la pluie, les chutes de neige qui se font de plus en plus rares année après année. Le Maroc devra penser peut-être. Je pense que cette sécheresse, hélas, sera durable et donc le Maroc devrait être résilient par rapport à cette situation climatique.
Oui, parce que la géographie du Maroc est aussi intéressante, avec la partie Sahara au sud et puis une partie montagneuse au nord, donc contrefort du mont Atlas et puis l'anti-Atlas aussi. Donc il y a aussi la gestion à la fois du relief entre la partie côtière et la partie montagneuse.
Tout à fait, il y a une gestion importante. Le Maroc est un pays montagneux, hein, notamment sur toute la partie nord et centre, les reliefs sahariens, comme vous l'avez dit, et puis une façade atlantique importante. Toute l'idée aujourd'hui est dans cette organisation géographique, pouvoir, pas seulement sur les activités touristiques, mais en fait sur tout l'écosystème social et économique, avoir un équilibrage, une décentralisation et une régionalisation qui permettent qui permet de trouver cet équilibre entre les différentes régions et ces différents reliefs.
Merci beaucoup, Ali Moutaïb, d'être venu au micro de Conflits
Merci à
présenter
vous.
les évolutions économiques importantes du Maroc et puis les transformations. C'est un pays dans lequel les Français se rendent souvent en vacances, mais c'est important aussi de voir comment il fonctionne au-delà des questions touristiques et historiques qui sont aussi très intéressantes. Et on a essayé, comme ça, au cours de cette émission, de vous donner cette approche contemporaine du Maroc. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.